mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être, sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans la première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente avant lui. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul, suivant ses propres lois inconnues et fatales devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ses symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, rempli par l'admiration qu'impose la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent, où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend.
Bonjour, nous proposons ce jour une nouvelle émission de notre série consacrée à Marcel Proust. Les états amoureux tiennent dans l'œuvre de Proust une grande place et ils déclinent beaucoup des formes qu'ils prennent au fil des pages. Aujourd'hui, c'est au thème que nous avons intitulé « La fébrilité amoureuse » que nous nous intéressons, à travers essentiellement deux extraits tout à fait emblématique de description d'état, d'autres diront de délire amoureux, étant bien évident que, pour Marcel Proust, les deux ne font qu'un. Comme pour toutes nos autres émissions proustiennes, un partenaire comédien et chanteur de talent passionné, lui aussi par cette aventure radiophonique, et sur qui repose cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie grandement. Il est évident que cette projection dans l'univers de Proust est surtout destinée à vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait vôtre, à vous y plonger, puisque ce qui est la spécificité de cette œuvre est que chaque lecteur aille à la rencontre de lui-même à partir des mots de l'auteur. C'est le livre de votre vie que Proust a écrit, en formalisant le ressenti qui nous était resté informulable de notre vécu. Et si vous l'avez déjà fait, à le retrouver avec le bonheur inlassable que procure cette œuvre. Bonne écoute.
Au moment où cette seconde pièce commença, je regardais du côté de Madame de Guermantes. Cette princesse, par un mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le vide, venait de tourner la tête vers le fond de sa baignoire. Les invités étaient debout, tournés vers la porte, et entre la double haie qu'il faisait dans son assurance victorieuse et sa grandeur de déesse, mais avec une douceur inconnue due à la feinte et souriante confusion d'arriver si tard, et de faire lever tout le monde au milieu de la représentation, entra, tout enveloppée de blanche mousseline, la duchesse de Guermantes. Et quand je portais mes yeux sur cette baignoire, bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de froides allégories, c'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des nuées coutumières, l'assemblée des dieux en train de contempler le spectacle des hommes sous un vélum rouge dans une éclaircie lumineuse entre deux piliers du ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que mélangeait de paix le sentiment d'être ignoré des immortels. La duchesse m'avait bien vu une fois avec son mari, mais ne devait certainement pas s'en souvenir. Et je ne souffrais pas qu'elle se trouvât, par la place qu'elle occupait dans la baignoire, regarder les mâles reports anonymes et collectifs du public de l'orchestre, car je sentais heureusement mon être dissous au milieu d'eux. Quant au moment où, en vertu des lois de la réfraction, vint sans doute se peindre dans le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire dépourvu d'existence individuelle que j'étais, je vis une clarté les illuminer. La duchesse, de déesse devenue femme, et me semblant tout d'un coup mille fois plus belle, leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le rebord de la loge, l'agita en signe d'amitié. Mes regards se sentirent croisés par l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse, laquelle les avait fait entrer à son insu en conflagration, rien qu'en les bougeant pour chercher à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour, et celle-ci, qui m'avait reconnu, fit pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire. Maintenant, tous les matins, bien avant l'heure où elle sortait, j'allais par un long détour me poster à l'angle de la rue qu'elle descendait d'habitude et, quand le moment de son passage me semblait proche, je remontais d'un air distrait, regardant dans une direction opposée, et levais les yeux vers elle dès que j'arrivais à sa hauteur, mais comme si je ne m'étais nullement attendu à la voir. Même les premiers jours, pour être plus sûr de ne pas la manquer, j'attendais devant la maison. Et chaque fois que la porte cochère s'ouvrait, laissant passer successivement tant de personnes qui n'étaient pas celles que j'attendais, son ébranlement se prolongeait ensuite dans mon cœur en oscillation qui mettait longtemps à se calmer. Mais après 3 jours, pour que le concierge ne pût se rendre compte de mon manège, je m'en allais beaucoup plus loin jusqu'à un point quelconque du parcours habituel de la duchesse. Souvent, avant cette soirée au théâtre, je faisais ainsi de petites sorties avant le déjeuner, quand le temps était beau. S'il avait plu à la première éclaircie, je descendais faire quelques pas et tout d'un coup, venant sur le trottoir encore mouillé, changé par la lumière en lac d'or, dans l'apothéose d'un carrefour poudroyant d'un brouillard que tanne et blondit le soleil, j'apercevais une pensionnaire suivie de son institutrice ou une laitière avec ses manches blanches. Je restais sans mouvement, une main contre mon cœur qui s'élançait déjà vers une vie étrangère. Je tâchais de me rappeler la rue, l'heure, la porte sous laquelle la fillette que quelquefois je suivais avait disparu sans ressortir. Heureusement, la fugacité de ces images caressées et que je me promettais de chercher à revoir les empêchait de se fixer fortement dans mon souvenir. N'importe, j'étais moins triste d'être malade, de n'avoir jamais eu encore le courage de me mettre à travailler, à commencer un livre. La terre me paraissait plus agréable à habiter, la vie plus intéressante à parcourir, depuis que je voyais que les rues de Paris, comme les routes de Balbec, étaient fleuries de ces beautés inconnues que j'avais si souvent cherché à faire surgir des bois de mes églises, et dont chacune excitait un désir voluptueux qu'elle seule semblait capable d'assouvir. En rentrant de l'opéra, j'avais ajouté pour le lendemain à celle que depuis quelques jours je souhaitais de retrouver l'image de Madame de Guermantes, grande, avec sa coiffure haute de cheveux blonds et légers, avec la tendresse promise dans le sourire qu'elle m'avait adressé de la baignoire de sa cousine. Je suivrai le chemin que Françoise m'avait dit que prenait la duchesse, et je tâcherai pourtant, pour retrouver 2 jeunes filles que j'avais vues l'avant-veille, de ne pas manquer la sortie d'un cours et d'un catéchisme. Mais en attendant de temps à autre, le scintillant sourire de Madame de Guermantes, la sensation de douceur qu'il m'avait donnée, me revenait. Et sans trop savoir ce que je faisais, je m'essayais à les placer à côté des idées romanesques que je possédais depuis longtemps et que la froideur d'Albertine, le départ prématuré de Gisèle et, avant cela, la séparation voulue et trop prolongée d'avec Gilberte avait libéré. L'idée, par exemple, d'être aimé d'une femme, d'avoir une vie en commun avec elle. Puis c'était l'image de l'une ou l'autre des 2 jeunes filles que j'approchais de ces idées auxquelles, aussitôt après, je tâchais d'adapter le souvenir de la duchesse. Auprès de ces idées, le souvenir de Madame de Guermantes à l'opéra était bien peu de chose. Une petite étoile à côté de la longue queue de sa comète flamboyante. De plus, je connaissais très bien ces idées longtemps avant de connaître Madame de Guermantes. Le souvenir, lui, au contraire, je le possédais imparfaitement. Il m'échappait par moments. Ce fut pendant les heures où, de flottant en moi, au même titre que les images d'autres femmes jolies, il passa peu à peu à une association unique et définitive, exclusive de toute autre image féminine, avec mes idées romanesques si antérieures à lui. Ce fut pendant ces quelques heures où je me le rappelais le mieux que j'aurais dû m'aviser de savoir exactement quel il était. mais je ne savais pas alors l'importance qu'il allait prendre pour moi. Il était doux seulement, comme un premier rendez-vous de Madame de Guermantes en moi-même. Il était la première esquisse, la seule vraie, la seule fête d'après la vie, la seule qui fut réellement Madame de Guermantes. Il devait être bien charmant pourtant ce souvenir, puisque c'est toujours à lui, librement encore à ce moment-là, sans hâte, sans fatigue, sans rien de nécessaire ni d'anxieux, que mes idées d'amour revenaient. Ensuite, au fur et à mesure que ces idées le fixèrent plus définitivement, il acquit d'elles une plus grande force, mais devint lui-même plus vague. Bientôt, je ne sus plus le retrouver, et dans mes rêveries, je le déformais sans doute complètement, car chaque fois que je voyais Madame de Guermantes, je constatais un écart d'ailleurs toujours différent entre ce que j'avais imaginé et ce que je voyais durant les quelques heures où j'eus le bonheur de le détenir sans savoir faire attention à lui. Chaque jour maintenant, certes, au moment que Madame de Guermantes débouchait au haut de la rue, j'apercevais encore sa taille haute, ce visage au regard clair sous une chevelure légère, toutes choses pour lesquelles j'étais là. Mais en revanche, quelques secondes plus tard, quand, ayant détourné les yeux dans une autre direction, pour avoir l'air de ne pas m'attendre à cette rencontre que j'étais venu chercher, je les levais sur la duchesse au moment où j'arrivais au même niveau de la rue qu'elle. Ce que je voyais alors, c'était des marques rouges dont je ne savais si elles étaient dues au grand air ou à la coupe rose, sur un visage maussade qui, par un signe fort sec et bien éloigné de l'amabilité du soir de Phèdre, répondait à ce salut que je lui adressais quotidiennement avec un air de surprise et qui ne semblait pas lui plaire. Pourtant, au bout de quelques jours, pendant lesquels le souvenir des deux jeunes filles lutta avec des chances inégales pour la domination de mes idées amoureuses avec celui de Madame de Guermantes, ce fut celui-ci, comme de lui-même, qui finit par renaître pendant que ses concurrents s'éliminaient. Ce fut sur lui que je finis par avoir, en somme volontairement encore et comme par choix et plaisir, transférer toutes mes pensées d'amour. Je ne songeais plus aux fillettes du catéchisme, ni à une certaine laitière, et pourtant, je n'espérais plus de retrouver dans la rue ce que j'étais venu y chercher, ni la tendresse promise au théâtre dans un sourire, ni la silhouette et le visage clair sous la chevelure blonde qui n'était telle que de loin. Maintenant, je n'aurais même pu dire comment était Madame de Guermantes, à quoi je la reconnaissais. Car chaque jour, dans l'ensemble de sa personne, la figure était autre, comme la robe et le chapeau. Pourquoi tel jour, voyant s'avancer de face sous une capote mauve, une douce et lisse figure au charme distribué avec symétrie autour de deux yeux bleus et dans laquelle la ligne du nez semblait résorbée, apprenais-je une commotion joyeuse que je ne rentrerais pas sans avoir aperçu Madame de Guermantes? Pourquoi ressentais-je le même trouble? Affectais-je la même indifférence? Détournais-je les yeux de la même façon distraite que la veille, à l'apparition de profil dans une rue de traverse et sous un toquet bleu marine d'un nez en bec d'oiseau le long d'une joue rouge barré d'un œil perçant, comme quelque divinité égyptienne. Une fois, ce ne fut pas seulement une femme à bec d'oiseau que je vis, mais comme un oiseau même. La robe et jusqu'au toquet de Madame de Guermantes étaient en fourrure, et ne laissant ainsi voir aucune étoffe, elle semblait naturellement fourrée, comme certains vautours dont le plumage épais, uni, fauve et doux, a l'air d'une sorte de pelage. Au milieu de ce plumage naturel, la petite tête recourbait son bec d'oiseau, et les yeux à fleur de tête étaient perçants et bleus. J'aimais vraiment Madame de Guermantes. Le plus grand bonheur que j'eusse pu demander à Dieu eût été de faire fondre sur elle toutes les calamités, et que ruinée, déconsidérée, dépouillée de tous les privilèges qui me séparaient d'elle, n'ayant plus de maison où habiter, ni de gens qui consentissent à la saluer, elle vint me demander asile. Je l'imaginais le faisant. Et même les soirs, où quelque changement dans l'atmosphère ou dans ma propre santé amenait dans ma conscience quelques rouleaux oubliés sur lesquels étaient inscrites des impressions d'autrefois, au lieu de profiter des forces de renouvellement qui venaient de naître en moi, au lieu de les employer à déchiffrer en moi-même des pensées qui d'habitude m'échappaient, au lieu de me mettre enfin au travail, je préférais parler tout haut, penser d'une manière mouvementée, extérieure, qui n'était qu'un discours et une gesticulation inutile, tout un roman purement d'aventure, moi qui étais devenu par suite de circonstances inverses, riche et puissant. Et quand je vais passer des heures ainsi à imaginer des circonstances, à prononcer les phrases que je dirais à la duchesse en l'accueillant sous mon toit, la situation restait la même. J'avais, hélas, dans la réalité, choisi précisément pour l'aimer la femme qui réunissait peut-être le plus d'avantages différents et aux yeux de qui, à cause de cela, je ne pouvais espérer avoir aucun prestige. Car elle était aussi riche que le plus riche qui n'eût pas été noble. Sans compter ce charme personnel qui la mettait à la mode, en faisant entre toutes une sorte de reine. Mais Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vint le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémy connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Souvent, il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurin qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentra. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue Lapérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de la voir plus tôt, d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble, et auquel il attachait plus de prix, parce que, grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui, après qu'il l'avait quittée. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann. Un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait à demain, elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour, et quand, au bout de quelques jours, la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais une fois qu'ayant songé avec maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurin. Il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait plus, était partie. En voyant qu'elle n'était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois. Ayant eu jusque-là cette certitude de la trouver quand il voulait, qui pour tous les plaisirs nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien une heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre un chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost, mais à chaque pas, sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient odieux obstacle qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'agent ne lui retardait plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui eût laissé croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité de ses rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurin qu'Odette était déjà partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi ? Toute cette agitation ? Parce qu'il ne verrait Odette que demain, ce que précisément il avait souhaité il y a une heure, en se rendant chez Madame Verdurin ? Il fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qu'il emmenait chez Prévost, il n'était plus le même, et qu'il n'était plus seul, qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, avec qui il allait être obligé d'user de ménagement, comme avec un maître, ou avec une maladie. Et pourtant, depuis un moment qu'il sentait qu'une nouvelle personne s'était ainsi ajoutée à lui, sa vie lui paraissait plus intéressante. C'est à peine s'il se disait que cette rencontre possible chez Prévost, de laquelle l'attente saccageait, dénudait à ce point les moments qui la précédaient, qu'il ne trouvait plus une seule idée, un seul souvenir derrière lequel il put faire reposer son esprit, il était probable pourtant, si elle avait lieu, qu'elle serait comme les autres, fort peu de choses. Comme chaque soir, dès qu'il serait avec Odette, jetant furtivement sur son changeant visage un regard aussitôt détourné de peur qu'elle n'y vît l'avance d'un désir et ne crût plus à son désintéressement, il cesserait de pouvoir penser à elle, trop occupé à trouver des prétextes qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite et de s'assurer, sans avoir l'air d'y tenir, qu'il la retrouverait le lendemain chez les Verdurin. C'est-à-dire de prolonger pour l'instant et de renouveler un jour de plus la déception et la torture que lui apportait la vaine présence de cette femme qu'il approchait sans oser l'étreindre. Elle n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémy, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même, à l'endroit qu'il lui avait désigné. La voiture ne revenait pas et Swann se représentait le moment qui approchait à la fois comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame est là » ou comme celui où Rémy lui dirait « Cette dame n'était dans aucun des cafés ». Et ainsi, il voyait la fin de la soirée devant lui, une et pourtant alternative, précédée soit par la rencontre d'Odette qui abolirait son angoisse, soit par le renoncement forcé à la trouver ce soir, par l'acceptation de rentrer chez lui sans l'avoir vue. Le cocher revint, mais au moment où il s'arrêta devant Swann, celui-ci ne lui dit pas « Avez-vous trouvé cette dame ?» mais « Faites-moi donc penser demain à commander du bois. Je crois que la provision doit commencer à s'épuiser. » Peut-être se disait-il que Rémy avait trouvé Odette dans un café où elle l'attendait, La fin de la soirée néfaste était déjà anéantie par la réalisation commencée de la fin de la soirée bienheureuse, et qu'il n'avait pas besoin de se presser d'atteindre un bonheur capturé et en lieu sûr qui ne s'échapperait plus. Mais aussi, c'était par force d'inertie. Il avait dans l'âme le manque de souplesse que certains êtres ont dans le corps. Ceux-là qui, au moment d'éviter un choc, d'éloigner une flamme de leur habit, d'accomplir un mouvement urgent, prennent leur temps, commencent par rester une seconde dans la situation où ils étaient auparavant, comme pour y trouver leur point d'appui, leur élan. Et sans doute, si le cocher l'avait interrompu en lui disant « Cette dame est là », il eût répondu « Ah oui, c'est vrai, la course que je vous avais donnée, tiens, je ne l'aurais pas cru. » Eux auraient continué à lui parler provision de bois pour lui cacher l'émotion qu'il avait eue et se laisser lui-même le temps de rompre avec l'inquiétude et de se donner au bonheur. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part et ajouta son avis en vieux serviteur. « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. » Mais l'indifférence que Swann jouait facilement quand Rémy ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait tomba quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout » s'écria-t-il. « Il faut que nous trouvions cette dame. » C'est de la plus haute importance. Elle serait extrêmement ennuyée pour une affaire et froissée si elle ne m'avait pas vu. Je ne vois pas comment cette dame pourrait être froissée, répondit Rémy, puisque c'est elle qui est partie sans attendre monsieur. Qu'elle a dit qu'elle allait chez Prévost et qu'elle n'y était pas. D'ailleurs, on commençait à éteindre partout. Sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants erraient, à peine reconnaissables. Parfois l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ses corps obscurs, comme si, parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. De tous les modes de production de l'amour, de tous les agents de dissémination du mal sacré, il est bien l'un des plus efficaces, ce grand souffle d'agitation qui parfois passe sur nous. Alors l'être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c'est lui que nous aimerons. Il n'est même pas besoin qu'il nous plût jusque-là plus ou même autant que d'autres. Ce qu'il fallait, c'est que notre goût pour lui devint exclusif. Et cette condition-là est réalisée à ce moment où il nous a fait défaut, à la recherche des plaisirs que son agrément nous donnait. C'est brusquement substitué en nous un besoin anxieux qui a pour objet cet être même, un besoin absurde que les lois de ce monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir. Le besoin insensé et douloureux de le posséder. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants. C'est la seule hypothèse du bonheur qu'il avait envisagée avec calme. Il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qui l'attachait à cette rencontre. Et il promit en cas de succès une récompense à son cocher, comme si, en lui inspirant le désir de réussir, qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire qu'Odette, au cas où elle fut déjà rentrée se coucher, se trouva pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra deux fois chez Tortini, et sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, pour rejoindre sa voiture, qu'il attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture. Elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi. Quant à lui, il avait couru Paris non parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il lui était trop cruel d'y renoncer. Mais cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable ne lui en paraissait maintenant que plus réelle. Car il n'y avait pas collaboré par la prévision des vraisemblances, elle lui restait extérieure. Il n'avait pas besoin de tirer de son esprit pour la lui fournir, c'est d'elle-même qu'elle émanait, c'est elle-même qui projetait vers lui cette vérité, qui rayonnait au point de dissiper comme un songe l'isolement qu'il avait redouté et sur laquelle il appuyait, il reposait, sans penser, sa rêverie heureuse. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de cattleya, et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée sous sa mantille d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement également de faille blanche à l'ouverture du corsage décolleté où étaient enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés. Elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il. N'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir, puis il lui dit « Surtout ne me parlez pas. Ne me répondez que par signe pour ne pas vous essouffler encore davantage. » Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc? J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant. « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi, pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Oh non, surtout ne parlez pas. Vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste. Je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu... Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie de ma main? Je ne vais pas trop fort? Je ne suis pas trop brutal? Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Il serait tombé. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable. Et en les respirant, pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus. Je n'en ai jamais senti. Je peux, dites la vérité. » Souriant, elle haussa légèrement les épaules comme pour dire « Vous êtes fou. Vous voyez bien que ça me plaît. » Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle le regarda fixement, de l'air languissant et grave qu'ont les femmes du maître Florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance, amené au bord des paupières ses yeux brillants, larges et minces, comme les leurs, semblaient prêts à se détacher ainsi que de larmes. Elle fléchissait le cou, comme on leur voit faire à toutes dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux, et en une attitude qui sans doute lui était inhabituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là, et qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attiré vers Swann. Et ce fut Swann qui, avant qu'elle le laissât tomber, comme malgré elle, sur ses lèvres, le retint un instant à quelque distance entre ses deux mains. Il avait voulu laisser à sa pensée le temps d'accourir, de reconnaître le rêve qu'elle avait si longtemps caressé et d'assister à sa réalisation. Comme une parente qu'on appelle pour prendre sa part du succès d'un enfant qu'elle a beaucoup aimé. Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette non encore possédé, ni même encore embrassé par lui, qu'il voyait pour la dernière fois, ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. Mais il était si timide avec elle qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses Cattleya, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là qu'il pouvait renouveler, puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois. Les jours suivants, il usa du même prétexte. Si elle avait des Cattleya à son corsage, il disait « C'est malheureux, ce soir les Cattleya n'ont pas besoin d'être arrangés. Ils n'ont pas été déplacés comme l'autre soir. Il me semble pourtant que celui-ci n'est pas très droit. Je peux voir s'ils ne sentent pas plus que les autres. Ou bien, si elle n'en avait pas. « Oh, pas de Cattleya ce soir, pas moyen de me livrer à mes petits arrangements. » De sorte que pendant quelque temps ne fut pas changé l'ordre qu'il avait suivi le premier soir en débutant par des attouchements de doigts et de lèvres sur la gorge d'Odette, et que ce fut par eux que commençaient chaque fois ses caresses. Et bien plus tard, quand l'arrangement ou le simulacre rituel d'arrangement des Cattleya fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire Cattleya » devenue un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, où d'ailleurs l'on ne possède rien, survécu dans leur langage, où elle le commémorait à cet usage oublié. et peut-être cette manière particulière de dire « faire l'amour » ne signifiait-elle pas exactement la même chose que ses synonymes ? On a beau être blasé sur les femmes, considérer la possession des plus différentes comme toujours la même et connue d'avance, elle devient au contraire un plaisir nouveau s'il s'agit de femmes assez difficiles ou crues telles par nous, pour que nous soyons obligés de la faire naître de quelque épisode imprévu de nos relations avec elle, comme avait été la première fois pour Swann l'arrangement des Cattleyas. Il espérait en tremblant ce soir-là. Mais Odette, se disait-il, si elle était la dupe de sa ruse, ne pouvait-elle deviner que c'était la possession de cette femme qui allait sortir d'entre leurs larges pétales mauves. Et le plaisir qu'il éprouvait déjà, et qu'Odette ne tolérait peut-être, pensait-il, que parce qu'elle ne l'avait pas reconnu, lui semblait, à cause de cela, comme il put paraître au premier homme qui le goûta parmi les fleurs du paradis terrestre, un plaisir qui n'avait pas existé jusque-là, qu'il cherchait à créer, un plaisir, ainsi que le nom spécial qu'il lui donna, en garda la trace. Entièrement particulier et nouveau. Maintenant, tous les soirs, quand il l'avait ramenée chez elle, il fallait qu'il entrât, et souvent elle ressortait en robe de chambre et le conduisait jusqu'à sa voiture, l'embrassait aux yeux du cocher, disant « Qu'est-ce que cela peut me faire? Que me font les autres ?» Les soirs où il n'allait pas chez les Verdurin, ce qui arrivait parfois depuis qu'il pouvait la voir autrement, les soirs de plus en plus rares où il allait dans le monde, elle lui demandait de venir chez elle avant de rentrer, quelque heure qu'il fût. C'était le printemps, un printemps pur et glacé. En sortant de soirée, il montait dans sa Victoria, étendait une couverture sur ses jambes, répondait aux amis qui s'en allaient en même temps que lui et lui demandait de revenir avec eux, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'allait pas du même côté, et le cocher partait au grand trot sachant où on allait. Eux s'étonnaient, et de fait, Swann n'était plus le même. On ne recevait plus jamais de lettres de lui où il demandait à connaître une femme. Il ne faisait plus attention à aucune, s'abstenait d'aller dans les endroits où on en rencontre. Dans un restaurant à la campagne, il avait l'attitude inverse de celle à quoi hier encore on l'eût reconnu, et qui avait semblé devoir être toujours la sienne. Tant une passion est en nous comme un caractère momentané et différent qui se substitue à l'autre et abolit les signes jusque-là invariables par lesquels il s'exprimait. En revanche, ce qui était invariable maintenant, c'était que, où que Swann se trouvât, il ne manquait pas d'aller rejoindre Odette. Le trajet qui le séparait d'elle était celui qu'il parcourait inévitablement et comme la pente même irrésistible et rapide de sa vie. À vrai dire, souvent resté tard dans le monde, il aurait mieux aimé rentrer directement chez lui sans faire cette longue course et ne la voir que le lendemain. Mais le fait même de se déranger à une heure anormale pour aller chez elle, de deviner que les amis qui le quittaient se disaient « Il est très tenu, il y a certainement une femme qui le force à aller chez elle à n'importe quelle heure », lui faisait sentir qu'il menait la vie des hommes qui ont une affaire amoureuse dans leur existence, et en qui le sacrifice qu'ils font de leur repos et de leurs intérêts à une rêverie voluptueuse fait naître un charme intérieur. Puis, sans qu'il s'en rendît compte, cette certitude qu'elle l'attendait, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres, qu'il ne reviendrait pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse oubliée, mais toujours prête à renaître, qu'il avait éprouvée le soir où Odette n'était plus chez les Verdurin, et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, ils nous semblent appartenir à un autre univers, ils s'entourent de poésie, ils font de notre vie comme une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce qu'Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir.
Nous vous avons proposé ce jour une nouvelle émission de notre série consacrée à Marcel Proust. Cette émission était dédiée au thème de la fébrilité amoureuse dans l'œuvre de Marcel Proust. Vous avez pu entendre différentes plages musicales au fil de cette émission. Il s'agit d'extraits de 4 concertos de Vivaldi pour mandoline et orchestre, interprétés par l'ensemble I Solisti Veneti, sous la direction de Claudio Simone, et aussi de La petite phrase de Vinteuil, un extrait de la sonate de Saint-Saëns. Je remercie André Bonhomme pour sa participation à cette émission, comme à toutes celles de cette série proustienne.
Thank you.